Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Il connaît tous les dessous de la politique.
L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
Aujourd'hui, à La Haut sur la Colline, notre conteur Jean-François Gibault revient sur le fabuleux destin de l'entrepreneur Vicky Lavoie, qui est devenu millionnaire en achetant une usine à Lebel-sur-Quévillon et en obtenant un juteux contrat de cogénération avec Hydro-Québec de 800 millions. Oui, 800 millions sur 25 ans. Des transactions qui intéressent maintenant l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, dois-je le rappeler. Mais c'est vendredi, alors c'est jour du dialogue des barbus.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu.
Bonjour tonton Thomas.
Salut l'autre barbu, ça va bien.
L'autre barbu. Hey, ça a été toute une semaine. Évidemment, on sent la deuxième vague venir. Oui. Et là, François Legault, penses-tu qu'il a réussi avec sa conférence de presse, disons-le, sur un ton solennel, grave, est-ce qu'il a réussi à convaincre les Québécois, selon toi?
Personnellement, je trouve que François Legault est un excellent communicateur. Il a exactement le bon ton, affable quand il faut, un peu bon père de famille quand il faut, un peu beau-frère au party de Noël de temps en temps avec son franc-parler et sa manière d'expliquer.
Oui.
Moi, j'ai trouvé qu'il avait eu le ton juste et qu'il pouvait convaincre les récalcitrants, peut-être pas les gens qui étaient dans la rue, pas de masque, mais peut-être le commun des mortels qui se grattait la tête parce que c'est si grave que ça, ça aidait. Mais deux jours plus tard, et ça, j'étais sidéré, donc jeudi, il est à l'Assemblée nationale, puis en réponse à une question de la chef de l'opposition officielle, Mme Anglade, il dit, c'est correct, c'est pas si grave, parce qu'on est dans la version optimiste de la courbe. Allô, l'optimisme? Alors, les gens qui disent qu'il y a l'exagération du gouvernement, puis tout ça, c'est une conspiration, un complot, blablabla, même si ça n'est qu'une idée, tout ça, c'est pas le même, ils pouvaient trouver un certain encouragement dans la réponse en chambre de M. Legault. Et ça, je ne l'ai pas compris. Je le blâme.
C'est ça, il prête flanc à certaines accusations là, d'incohérence.
Mais oui, ça, c'est un problème politique à son égard. Mais d'une manière plus large, les gens qui propagent l'idée que la COVID-19, c'est une invention, puis c'est pas vrai, puis patati patata, bien, ils vont regarder cette déclaration-là, qu'on est dans une courbe plutôt optimiste, ils vont dire, mais arrêtez vos exagérations. Il a piétiné sa propre version de l'histoire, et ça, c'est une erreur toujours en communication.
Oui, comme l'erreur de Christian Dubé aussi, à l'endroit de cette pauvre coiffeuse. C'est vraiment tragique quand même. C'est le
tragique,
pouvoir qui dérape. Et Monsieur Dubé n'en est pas à sa première bourde.
Non, puis entre toi et moi, chers collègues,
oui.
Le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et les établissements de santé ordonnaient, j'en ai vu, là, et TVA les a très bien couverts, par écrit à des gens en pleine éclosion, en pleine COVID, en pleine pandémie, à des gens de faire plusieurs sites, plusieurs établissements, alors que c'était banni dans les provinces qui sont mieux tirées d'affaires, comme Colombie-Britannique et en Ontario. Nous, on ne l'a jamais banni, ça. Alors, moi, je veux bien. C'est facile de tomber sur la tête d'une coiffeuse.
On n'a jamais banni ça, Thomas, parce qu'on aurait ainsi abandonné des gens sans service. Alors, entre les abandonner sans service, les laisser à eux-mêmes, un peu comme à la résidence Heron, au moins leur donner des services avec le risque d'une contamination, on a choisi des services.
Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est l'excuse du gouvernement. Qu'une fois que le spirale infernale commençait, ils n'étaient plus capables de s'en sortir. Mais la question, l'autre barbu, c'est comment ça se fait que c'est au Québec qu'on s'est mis dans cette situation-là? Comment ça se fait que dans les autres provinces, en ayant actionné les leviers nécessaires à temps, ils ont été capables de garder leurs employés et de garder la santé et la sécurité des résidents de ces centres-là?
Ouais, effectivement. Aujourd'hui, c'est les provinces qui qui vont présenter leur front commun pour réclamer des sous d'Ottawa. Penses-tu que Justin Trudeau va accepter? Penses-tu qu'il va être obligé de céder à cette demande-là des provinces?
Il va être obligé de céder à une partie de la demande, notamment en ce qui concerne la santé. Ça, c'est le talon d'Achille de M. Trudeau, d'essayer de convaincre les gens que le fédéral n'a pas besoin de remettre plus. Et pour avoir été un des nombreux politiciens à Québec, avoir essayé de gérer, malgré les coupures monumentales imposées par Paul Martin lorsqu'il était le ministre des Finances, moi, je trouve que c'est juste le retour de l'ascenseur. C'est juste l'équilibre des choses que les provinces disent, écoutez là, oui, la santé et les services sociaux, c'est d'abord et avant tout les provinces, mais à la fin des années 60, on a créé un système dont on est tous fiers, assurance maladie universelle, gratuite, tout le monde, pas de problème. Le deal à l'époque, 50% payé par le fédéral, 50% payé par les provinces,
ouais.
Et voilà que deux générations plus tard, on est rendu à 21% payé par le fédéral et 79% payé par les provinces. Ça se peut pas. Ça peut pas continuer.
Ça marche pas.
Et ça, c'est incontournable comme argument.
Mais ça fait longtemps que cet argument-là est présenté par les provinces, notamment par le Québec. Moi, je me souviens...
Oui, mais le Québec n'est plus tout seul.
Ouais.
Le Québec n'est plus tout seul. On a des provinces majeures qui sont à bord de ce train avec nous. Et tout le monde est en train de pousser M. Trudeau, qui, dans sa situation minoritaire, la dernière chose qu'il veut, c'est de provoquer une élection, d'abord et avant tout, parce qu'il a peur de la perdre, mais de provoquer les provinces et leur capacité aussi de communiquer. Parce que si vous commencez à vous attaquer à des morceaux comme Doug Ford ou Brian Pallister au Manitoba ou François Legault au Québec, bonne chance. Mm-hmm. Et Scott Moe, qui est là par intérim jusqu'à leurs élections prochaines en Saskatchewan, c'est un peu la même chose. Et ce sont des bêtes dans leurs provinces respectives, très solides, très ancrées avec leur population.
Oui, c'est des politiciens populaires, c'est vrai.
Oui, mais aussi, pour répondre à ta question directement, Antoine, pourquoi jamais par le passé? Parce que personne ne s'intéressait à ça. Tu pouvais créer ça sur les toits au Québec, mais si Ontario et les autres provinces n'embarquaient pas, c'était juste tout de ce chialage du Québec, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'écouter ça. Mais là qu'on est rendu, toutes les provinces qui ont la même toune, toutes en train de chanter en même temps, là, ça va être beaucoup plus difficile pour M. Trudeau de l'ignorer.
Mais toi, Thomas, qui a été dans un parti qui est reconnu comme un centralisateur, si jamais tu avais été au pouvoir, tu aurais été pogné avec des gens qui auraient dit « Ah, il faut mettre des conditions aux provinces pour qu'ils dépensent bien que selon nos priorités en santé. » Qu'est-ce que tu aurais fait? Je me suis toujours demandé.
Nous, on avait une base politique constitutionnelle et un offre vers le Québec quand j'étais chef du NPD, qu'on appelait la déclaration de Sherbrooke parce que c'était lors d'un congrès dans cette ville québécoise que ça avait été élaboré.
Oui.
Et ça prévoyait spécifiquement que dans des domaines comme la santé, c'était des transferts directs sans condition.
Ah bon? OK. Donc, tu t'étais muni de ça.
Oui.
Tu avais ça dans ta petite poche. En tout cas, j'ai l'impression qu'en matière d'habitation, si on peut faire juste une parenthèse sur le logement social, là, en matière d'habitation, on a l'impression là, que ça va être quasiment sans condition. Ce qui a été annoncé hier, là, le 1,4 milliard là, qui va être...
C'est tant mieux parce que le fédéral, un, connaît rien là-dedans. Et deux, le Québec en a un besoin tellement criant, notamment dans la grande région de Montréal, qu'il fallait arrêter de niaiser avec la rondelle. Alors, moi, je suis bien content.
Oui. Je reviens à François Legault qui, et là, je vais te poser la question, as-tu l'impression comme moi que hier, c'était sa conversion au fédéralisme la plus claire?
je m'explique.
Il a dit, on l'a vu pour les mesures... Attends, je vais retrouver la citation. On est toujours plus fort quand on est unis. Quand on se tient ensemble, les différentes provinces, on est loin du François Legault qui rédigeait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain.
Oui, mais c'est pour ça que c'est tellement puissant.
C'est ça, hein?
Précisément parce que c'est un ancien souverainiste. Moitié converti, disant, moi, je suis un pragmatique. Ça, les grands soirs où on allait déclarer l'indépendance, ça n'a pas marché. Moi, je vais y aller étape par étape. Donc, ce que je vois ici, c'est l'étapisme et la patience de François Legault, mais parce qu'il est la personne qu'il est, parce qu'il a les politiques qu'il a, il est capable d'avoir tous les autres premiers ministres à côté de lui. Parce que sinon, c'est toxique pour eux autres. Ils ne peuvent pas parler avec quelqu'un qui, par ailleurs, est en train de prôner l'indépendance.
Mais oui.
Donc, Legault a le meilleur des deux mondes. les souverainistes pour bon nombre, les nationalistes pour la majorité, voient en lui leur leader politique. Et lui, il est capable de communiquer avec eux autres, dire, oui, on est bien déçu qu'on ne sache jamais marcher, mais entre-temps, on va aller chercher tout ce qu'on peut. Et ça, ça participe à cette démarche-là, aller chercher tout ce qu'on peut.
Il n'y a rien comme les convertis en politique, hein, Thomas? C'est-à-dire, je pense à Lucien Bouchard dans le temps qui avait aidé Mulroney, puis finalement, là, il prenait le choix de l'indépendance, il faisait le choix de l'indépendance. On pense à Robert Bourassa qui a failli, on a eu l'impression à un moment donné, au moment de Meach, tu sais, quand il a dit que le fédéralisme n'était pas une solution éternelle pour le Québec, hey, on se disait, mon Dieu, mais il était vraiment...
Il y a des documents qui viennent de sortir du Conseil des ministres qui montrent que Bernard Landry relatait une conversation avec Bourassa au cours de laquelle, selon M. Landry, M. Bourassa aurait avoué que lui, c'était juste une question de temps, mais il était souverainiste fondamentalement. Alors, oui, il y en a pour les fins et les fous là-dedans. Mais il y a des choses qui
mais sont... Mais les convertis, c'est puissant.
Oui, mais c'est très puissant. Justement, et prenons l'exemple de la loi 101 au fédéral.
Oui.
Là, jamais j'aurais pensé que Justin Trudeau serait mis dans un coin aussi facilement. Lorsque j'étais à Ottawa, j'ai présenté un projet de loi pour étendre l'application de la loi 101 aux compagnies qui relèvent du fédéral. Pensons aux ports, pensons aux chemins de fer, pensons aux banques, et ainsi de suite. La réponse des milieux des affaires, dire, écoutez, presque toutes les banques l'appliquent déjà, ce qui est par ailleurs vrai, et une bonne chose. Mais ça pose juste la question, alors, pour eux autres, c'est pas un problème de dire qu'ils doivent le faire, pour l'instant, c'est leur choix. Et pour les autres qui ont choisi de ne jamais le faire, on va la leur imposer. Et je n'imagine personne qui peut me donner un argument valable pourquoi un travailleur au Québec pourrait pas avoir le droit, pas la velléité ou la bienséance de son patron, mais le droit d'exiger que son patron lui envoie ses communications écrites en français. Je connais personne qui peut s'opposer à ça.
Ben non, c'est sûr.
Là, sauf Justin Trudeau, parce que Trudeau s'est opposé à ça, ils ont voté contre ça quand nous on a présenté notre projet de loi. Lui et Mélanie Joly sont méprisants à l'égard de cette idée d'étendre la loi 101 à l'égard pour défendre les droits des travailleurs québécois qui travaillent pour des compagnies qui sont de compétence fédérale. Et voilà que tout d'un coup, Mélanie Joly, c'est les criquets, hein. C'est assez silencieux, merci.
Effectivement.
Il ne sait plus où mettre les pieds. Monsieur Trudeau reste quoi là-dessus? Monsieur Trudeau n'a pas de réflexe dans le dossier linguistique. Hey, est-ce qu'on peut parler de Madeleine Meyer, cette députée provinciale libérale de l'Ontario qu'ils ont amenée à Ottawa? Ils allaient la nommer commissaire aux langues officielles pour tenir tête au gouvernement de Justin Trudeau alors qu'elle avait contribué financièrement à sa propre campagne électorale à la chefferie de Trudeau.
Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, effectivement.
C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des institutions pour protéger les deux langues officielles à travers le pays. Puis là, ils vont être obligés de prendre une décision. Puis Erin O'Toole a surpris plus d'un. En prenant fait et cause pour le droit linguistique des travailleurs québécois dans ces établissements.
C'est un virage qui est passé un peu sous le radar, mais qui est majeur, moi, je trouve. Tu as tout à fait raison. Trudeau et se retrouve dans un coin, puis son esquive était tellement pitoyable. Son esquive, là, de dire on est en COVID, nous, on protège les individus. Mais franchement, comme si dans le discours du trône, là, il n'allait pas aborder aucun autre sujet. Mais voyons donc.
J'ai eu des nouvelles là-dessus. Ça, c'est l'avantage d'être commentateur et analyste politique.
Parce que
je finis par parler à tout le monde parce que je ne suis plus là en politique partisane. Et j'ai eu des informations vraiment intéressantes en provenance de Toronto sur le discours du trône. M. Trudeau donnait des indications il y a 3-4 semaines que ça allait être vraiment un feu d'artifice de nouvelles idées, vraiment frapper très fort environnement, développement durable, respect de l'accord de Paris, chose que M. Trudeau a résolument pas faite depuis 5 ans qu'il est là. Mm-hmm. Et voilà que, d'une manière très intéressante, j'ai appris à travers les branches dans des hautes sphères, mais quand je dis hautes sphères, vraiment les hautes sphères économiques et financières à Toronto, que ni plus ni moins, M. Trudeau s'est fait dire de se calmer. et il va se calmer. Et moi, j'étais persuadé, par exemple, que Stephen Guilbeault, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup, et qui est très crédible comme porte-parole en environnement, j'étais persuadé qu'on allait voir Stephen Guilbeault arriver comme un Uber ministre environnement développement durable. Je le souhaiterais encore parce que je pense qu'il est en train de languir, même si c'est c'est un dossier le fun, il touche au Facebook et tout ce truc-là de ce monde, mais de le mettre...
Oui, puis il a fait un livre sur l'intelligence artificielle, hein, Stephen oui. Guilbeault, et donc il s'intéresse à autre chose. Souvent, on le réduit à son côté vert, mais c'est un gars intelligent qui... Oui, c'est ça.
Mais je pense qu'on est en train de perdre ses talents en le mettant là. Imagine le travail que ce gars aurait pu faire pour que le Canada devienne un chef de file en environnement plutôt que d'être un dernier de classe comme on est en ce moment.
Mm-hmm. Et penses-tu que Justin Trudeau va finalement se ranger au consensus sur la loi 101 appliquée aux organismes et entreprises fédérales?
Il va utiliser le truc classique au fédéral. Il va dire qu'il va demander un avis, il va mettre ça en commission parlementaire, il va traîner les pieds, il va staller. C'est facile à faire 1, 2, 3, tout est déjà là.
Mais,
les projets de loi sont déjà écrits.
Mais encore une fois, c'est les conservateurs qui ont l'air à comprendre le mieux l'aspect, comment dire, la conception dominante du fédéralisme au Québec, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit asymétrique. Et c'est les conservateurs. Tu sais, je repensais à ça aujourd'hui. Stanfield, je remonte très loin, là, mais ayons de la mémoire un peu. Stanfield avait dit, moi, je suis pour le statut particulier. Après ça, Joe Clark aussi était ouvert. Mulroney, bon, et c'est évident avec Meech et même Charlottetown. Puis Harper, d'une certaine façon, aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est souvent... les anglophones du Parti conservateur qui comprennent mieux le Québec sur cet aspect-là. Est-ce que c'est ton impression?
Oui, c'est mon impression. Et je me permettrais d'ajouter un autre élément. Toi et moi, on a parlé la semaine dernière du débat que j'ai eu avec Trudeau lors de l'élection en 2015,
oui.
Où j'ai dit c'est une honte d'avoir mis des centaines de Québécois en prison sans accusation, des gens qui n'avaient rien fait. Monsieur oui. Trudeau, on était à Toronto pour ce débat au centre de la ville. C'était tenu par le Monk Center, une école importante à Toronto. Et M. Trudeau est monté sur son grand cheval blanc, son cheval blanc qui appartient à son père. Et il a commencé à dire à quel point il défendait tout ce que son père avait fait. Moi, j'ai appris en cet instant-là, Antoine, que Justin Trudeau a toujours maîtrisé l'art, être contre le Québec, d'une manière très ouverte dans le reste du Canada. Mm. Et les conservateurs n'ont jamais joué ce jeu-là.
Oui.
Les libéraux font le full de vote dans le GTA, le Greater Toronto Area, avec ce genre d'attitude, tapant sur la tête du Québec. Moi, j'étais rondement attaqué parce que je disais que 50% plus 1, c'est ça que ça prenait pour gagner un référendum.
Ben oui.
M. Trudeau m'attaquait dans les débats et tout ça. Mais il m'attaquait pas au Québec là-dessus, il m'attaquait à Toronto là-dessus, il m'attaquait à Calgary là-dessus.
Ah non, donc, c'est la conception trudeauiste est tellement rigide et empêche
C'est un simulacre. La version, Justin, c'est un simulacre de la version du père qui était ressentie. Mais la fameuse affaire, justement, autour de la loi sur les mesures de guerre, Just Watch Me, puis tout ça, ça c'était un show qu'il était en train de faire pour le Canada anglais.
Voilà.
Ni plus ni moins.
Exactement. Hey, merci infiniment, Thomas. Allez, toujours intéressant bientôt. De te parler, puis à la semaine prochaine.
Salut, l'autre barbu.
Salut.
Là-haut sur la colline.
La politique autrement dit. Cube Radio.
Arriva. Gigi Lamoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse.
Bonjour Jean-François Gibault.
Bonjour Antoine.
Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors cette mystérieuse entrepreneure, Vicky Lavoie, qui avait raflé un contrat mirobolant avec Hydro-Québec, tu vas nous l'expliquer, là. Maintenant, elle est sous enquête de l'UPAC. Là. On l'a appris au bureau d'enquête.
Mm-hmm. Exactement. Donc, Mme Lavoie et, dans le fond, je dirais plus largement, toutes les circonstances qui ont mené à le rachat par Mme Lavoie d'installations industrielles avec de l'argent public à 100%. Comment une telle chose a pu se produire.
Ben oui.
Donc, je vous refais rapidement un peu la série des événements. Donc, il y a une usine à Lebel-sur-Quévillon, donc dans le Nord, qui fait de la pâte Kraft. Ça, dans le fond, c'est de la pâte, on prend des résidus forestiers, puis on fait de la pâte à papier avec ça, là, on appelle ça de la pâte cellulosique. Et cette entreprise-là, était associé à une centrale de cogénération, une centrale électrique. Et à ce moment-là, c'était une manière de rentabiliser les activités de l'usine. Donc, c'était un programme qu'on avait il y a quelques années avec Hydro-Québec qui disait si une entreprise, par exemple, a une petite centrale, elle peut s'en servir pour alimenter son usine et l'excédent de production d'électricité, on la vend à Hydro-Québec qui l'achetait à très bon prix. Et pourquoi qu'on faisait ça? C'est parce qu'en réalité, c'est qu'on acceptait peut-être d'acheter de l'électricité un peu trop cher, mais on se disait en échange, on va avoir des bons emplois payants dans les régions du Québec, là où des fois c'est plus difficile. Donc ça, c'était un petit peu l'idée de départ.
Ouais.
Le problème, c'est qu'il y a eu des tensions commerciales avec l'Asie, puis il y a eu des surtaxes d'imposer sur ces produits-là qu'on exportait. Alors l'usine, évidemment, ça a rapidement périclité et on s'est ramassé avec des installations qui ne servaient plus. C'est là que Mme Lavoie arrive dans le portrait et achète cette usine-là avec la promesse de relancer une certaine forme d'activité. À l'époque, elle promettait de faire justement des serres. Pourquoi des serres? Parce que quand on a une usine de cogénération, ça produit de la vapeur, donc c'est très chaud et ça permet de chauffer des installations.
Ah oui, OK.
Quand on a des serres, ben c'est vrai que ça peut être intéressant.
Ben oui.
Le seul problème, c'est qu'on s'est rendu compte que son plan, c'était plutôt de bouler dans le fond ce qui restait de la usine industrielle. Et ça, pour les gens de la région, c'était...
De démolir, tu veux dire? Okay.
Ben oui, de passer le bulldozer, le bouler. Bon. Alors, les gens de la place, eux, ce qu'ils veulent, c'est reprendre leur job, tu comprends?
Oui.
Alors, ils ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Puis là, l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben, elle a acheté ça 16 millions de dollars et elle n'a pas mis un sou de sa poche.
Le comment gouvernement, ça?
Ben, c'est ça le grand mystère, Antoine. Ça n'arrive jamais. Hein? Moi, tu le sais, j'ai travaillé au bureau du ministre de l'Économie il y a quelques années, donc c'est des rouages que je connais un peu. Et jamais, le gouvernement va payer 100% de la facture pour un acheteur privé. Je veux dire, moi aussi, j'aurais aimé ça acheter quelque chose, 16 millions avec l'argent du gouvernement, pas une scène de ma poche. Et là où ça devient scandaleux, c'est que quelques mois plus tard, elle revend la même usine le double du prix. Et là, ça, c'est pas rien, là. Le double du prix.
Donc, elle n'avait pas à rembourser un prêt, là.
Ben, je veux dire, c'est-à-dire qu'elle a dû rembourser, oui, des prêts, mais au final, il lui restait un profit net de plusieurs millions.
C'est
exactement,
ça. C'est épouvantable.
Qu'elle a réalisé entièrement avec l'argent du gouvernement. Mais ce n'est pas tout, hein. Ouais. C'est quelqu'un de très habile. Elle a gardé le contrat d'approvisionnement en électricité qui venait avec l'usine. Dans le fond, ça, elle l'a conservé. Elle n'a vendu que les installations. Et après ça, elle a acheté une autre usine de cogénération à Chapais. Et elle s'est dit, je vais transférer le contrat que j'ai avec Hydro-Québec à Chapais. Et là, on parle d'un contrat qui vaut 800 millions de dollars sur, évidemment, quelques dizaines d'années, là, mais c'est quand même plusieurs millions de dollars par année, 800 millions au total, c'est gigantesque.
C'est vrai, 800 millions, mais voyons.
Bon. Puis là, on apprend deux choses essentiellement, Antoine. La première des choses qu'on apprend, c'est que ce que je viens de vous conter là, c'est-à-dire comment qu'on peut en arriver à payer à 100%, à financer à 100% des projets privés à quelqu'un qui, en plus, n'avait aucune compétence particulière dans ce secteur-là. Là, je veux dire, c'était pas comme si, des fois, on a besoin d'un bon opérateur, on veut y voir relancer, les activités de l'usine.
Il connaît ça. Ah ouais.
Mais là, c'est pas ça. Là. L'usine, là, c'était terminé la pâte craft. Là, évidemment, maintenant qu'il y a un nouvel acheteur qui a payé le double, ben là, ils sont encore dans les démarches pour relancer tout ça. Elle est juste partie avec l'argent. Alors, le résultat des courses, il y a eu une enquête interne au ministère de l'Économie.
Oui, moi, je me souviens.
Cette enquête-là,
oui.
Ben oui, et là, on apprend que si c'est long un peu avant d'avoir les résultats, c'est que le rapport est rendu à l'UPAC.
Ah!
Alors là, ça veut dire que probablement qu'au courant de l'enquête, le jury comptable, la firme qui a fait les vérifications, ben, a trouvé matière à ce que l'information soit envoyée à la police.
Donc, mais l'UPAC, c'est l'unité permanente anticorruption, donc
exact.
Ils ont trouvé de la corruption. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des élus ou il y a des... Est-ce qu'on peut soupçonner la possibilité qu'il y ait des élus qui en aient profité? Ou ça peut être des hauts fonctionnaires, ça peut être pas nécessairement
exactement,
des élus.
Exactement. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les disons, les les voies que Mme Lavoie a empruntées pour essayer de convaincre les autorités d'embarquer avec elle, ce serait plutôt la voie de hauts fonctionnaires. Donc, il y a des apparences, dans le fond, de relations privilégiées avec des hauts fonctionnaires qui auraient poussé le dossier dans la bonne direction. Et ultimement, c'est sûr, Antoine, que Dominique Anglade, qui était la ministre de l'Économie à ce moment-là, elle va devoir s'expliquer, là. Parce que minimalement, et là, c'est le cas de le dire, elle a dormi au gaz, minimalement, là, dans ce cas-ci, je voudrais parler de biomasse, là, mais disons qu'il y a eu un manque de vigilance, ça, c'est certain, parce que son gouvernement a prouvé ça, elle a une imputabilité.
C'est clair.
Mais maintenant, qui dans le fond, a trouvé que c'était une bonne idée de faire ça, ben c'est probablement ça qu'on saura un jour. Donc, c'est qui est tenu responsable pour ces choses-là. Deuxième chose qu'on apprend, je veux dire, moi, là, si j'avais... Parce qu'elle, elle doit, avant de se coucher chaque soir, là, elle doit prendre 5 minutes pour se taper sur les cuisses puis rire un bon coup tellement que, je veux dire, c'est exceptionnel d'être capable de faire une passe d'argent comme ça à 100 mètres aucune scène de son portefeuille. Là, elle doit rire à chaque matin aussi. Mais là, dans le fond, ce qu'on se demande, c'est... Elle revient et là, je me rends compte qu'elle a soumis des demandes de subvention tout récemment, là, en 2020, au gouvernement. Donc, elle en rajoute une couche. Moi, je pense que ça prend un front de
C'est pour là. Ses tomates, là, parce qu'elle fait
ben oui,
des, elle a des serres, d'après ce que j'ai vu sur son Facebook.
Elle veut faire des serres, mais ça prend un front de bœuf quand tu es sous enquête pour abus de fonds publics. De revenir avec des nouvelles demandes de subvention, moi, j'en reviens pas. Ceci dit, je veux dire, il n'y a pas de mal à demander, il y aurait un mal d'accorder peut-être, évidemment, c'est pas elle qui va décider, mais pour, encore une fois, son bon vieux projet de tomate, parce que la fond, c'est pas qu'elle aime les tomates particulièrement, Mme Lavoie, c'est que
elle aime les
pour
chevaux.
Avoir, pour recevoir, oui, elle aime beaucoup les chevaux, parce que pour recevoir d'Hydro-Québec, dans le fond, des millions de dollars par année, ben Hydro-Québec continue à poser l'exigence qu'il doit y avoir une activité industrielle de supporter par l'installation électrique. Et c'est là qu'elle a besoin de se trouver comme une activité connexe à la vente d'électricité. Et c'est son fameux projet de faire pousser des tomates dans le Nord. Mais encore là, est-ce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un plan commercial qui se tient debout pour faire des tomates dans le Nord ou si c'est juste d'avoir le prétexte pour faire de l'électricité? Parce que moi, je me demande, je veux dire, évidemment, les coûts de transport, Antoine, pour amener des tomates là, de Chapais jusqu'à dans les marchés du sud du Québec... Ouais. Est-ce qu'il se mange assez de tomates dans le Nord pour avoir approvisionné un marché local sans avoir des importants excédents? Je pense que tout ça, ça peut être intéressant de regarder si c'est vraiment un plan d'affaires qui tient debout.
Ou si c'est un prétexte.
Qu'on veut. C'est un prétexte, dans le fond, pour avoir la généreuse subvention d'Hydro-Québec à chaque année là pendant plusieurs années.
Ouais.
Donc, c'est tout ça qui va devoir être examiné. Est-ce qu'Hydro-Québec, dans le fond, va y voir vraiment une activité industrielle puis dire effectivement, donc on peut continuer à acheter cette électricité-là, ou bien si Hydro va dire, ben c'est un prétexte parce que c'est une infime partie de la capacité de la centrale, là, c'est-à-dire de la vapeur qui est émise par la centrale de cogénération qui est utilisée pour le moment dans sa production de tomates qui est prévue. Mais,
espèce de tomate qu'on nomme Fling Flang, est-ce que tu savais?
Ça remplace la tomate rose, Antoine. C'est la tomate Fling Flang. Mais elle goûte très acide, contrairement à la tomate rose.
Exactement. Merci beaucoup, Jean-François Gibault.
Cube Radio.